Voilà, bonjour. J'aimerais qu'on puisse lire dans Genèse, au chapitre 12, à partir du premier verset. Je vais m'arrêter un peu sur l'histoire d'Abraham. Abraham ou Abraham, je mélangerai les deux façons de le dire, parce que en réalité, ce qui importe dans ce message ce matin, c'est pas tellement les détails, mais c'est un peu le cours de la vie d'Abraham. Et donc, je ferai quelques commentaires sur ce qu'on en sait. Et j'aimerais donc commencer par lire les premiers versets, les quatre premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 75 ans. Qui est-ce qui a 75 ans ici? Alors, c'est le moment.
Je vais partir. Ah non, je ne vais plus partir.
Exact. Alors, c'est très intéressant, n'est-ce pas? C'est très intéressant comme réponse. Parce que Abraham avait 75 ans lorsque Dieu l'a appelé. Et il n'a pas discuté. Et je me suis toujours demandé, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que Abraham peut entendre la voix de Dieu et dire, ok, j'y vais. Alors qu'il a déjà passé une vie entière à travailler, à faire ce qu'il avait à faire, à avoir une famille, des gens qui travaillaient pour lui. Et il dit, ok, on fait les bagages et on s'en va. En fait, on ne sait pas, n'est-ce pas, comment Dieu s'est révélé à Abraham. Ça ne nous est pas dit. Mais c'est sûr que Dieu s'est révélé à Abraham d'une façon ou d'une autre. Un jour, une rencontre s'est produite. On le sait pour Moïse, hein, on le sait pour beaucoup d'autres, mais pas pour Abraham. Mais on est sûr qu'il a rencontré Dieu, ou plutôt que Dieu l'a rencontré. C'est Dieu qui prend l'initiative de la rencontre, toujours. Souvent, on appelle les gens à venir au Seigneur, à venir rencontrer le Seigneur Jésus. Mais en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible. On comprend ce que ça veut dire. Mais réellement, on ne peut pas aller rencontrer Jésus ou aller rencontrer Dieu. Et tous ceux qui ont fait cette rencontre le savent. Moi-même, lorsque j'étais au moment où Dieu l'avait choisi, j'ai dit à Dieu, écoute, moi, je veux bien être ton enfant et tout ce que j'ai entendu sur toi à l'école du dimanche. Mais je ne sais pas où tu habites. Je ne sais pas à quelle porte frapper. Je n'ai pas d'adresse pour aller te voir. Je ne peux pas mettre ton adresse dans le GPS et puis hop, on va aller voir Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, si tu es vraiment Dieu, c'est à toi de venir me voir. C'est à toi de venir pour me rencontrer. Et il l'a fait. Les gens qui ont voulu rencontrer Dieu, ils se sont construits une tour. N'est-ce pas? Ils ont commencé à ériger une tour pour aller rencontrer Dieu. En fait, on sait bien qu'ils ne voulaient pas vraiment rencontrer Dieu. Ils voulaient surtout être ensemble. Ils voulaient surtout se former ensemble à l'élévation. Devenir plus grand, devenir plus haut, devenir plus fort, se rapprocher de Dieu pour essayer de le tutoyer et d'être comme Dieu. Et donc Dieu a arrêté cela rapidement. Il les a, je parle de la tour de Babel, vous avez compris, n'est-ce pas ? Il a confondu les langues de sorte à ce que les gens ne puissent plus se comprendre. Et aujourd'hui, si nous avons des cultures différentes, des langues différentes, des religions différentes, c'est à cause de ça. Donc, n'en veuillons pas à toutes ces cultures et à toutes ces langues d'être ce qu'elles sont. C'est l'œuvre de Dieu, d'une certaine manière. Et en réalité, Dieu ne veut pas que les hommes l'approchent. C'est le péché, n'est-ce pas, qui empêche cela. Dieu ne veut pas que l'homme l'approche, mais Dieu veut mettre en place les conditions de la rencontre. C'est lui qui prendra donc l'initiative, c'est lui qui mettra en place les conditions de la rencontre. Et donc Dieu s'est fait connaître à Abraham d'une certaine manière que Abraham pouvait entendre Dieu lui parler. Il pouvait le comprendre, il pouvait aussi l'adorer. Et de toute évidence, il y a eu un climat de confiance qui s'est installé entre Dieu et Abraham. Et à ses 75 ans, Abraham entend Dieu lui parler et l'appeler à devenir un homme d'une grande stature, à partir vers une destination inconnue ou connue de Dieu seul, et d'être la clé d'une promesse, celle de devenir l'homme à l'origine d'une grande nation, d'être béni, d'être protégé et de passer à la postérité mondiale, universelle. Aujourd'hui, Abraham est connu de tous. Abraham est connu des musulmans. Apparemment, Abraham n'a pas hésité. Il n'a pas dit « Ah non, non, moi je déménage plus maintenant à 75 ans. » Il est parti vers le pays de Canaan avec sa famille, avec tous ses biens. Et il s'est arrivé sur place à Canaan. C'est là que Abraham apprend que c'est dans ce pays-là qu'il va habiter plus tard. Parce qu'en fait, c'est juste un premier passage qu'il fait là. Et donc, n'est-ce pas, ça montre que Dieu peut nous appeler à faire quelque chose, mais sans nous donner de détails. Sans nous dire, ça va se passer comme ça, ensuite comme ça, il va se passer ça, et puis après, à la fin, ça va donner ça. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Dieu a appelé Abraham à partir. Il est parti, et il lui a dit les choses au fur et à mesure que le temps passait. Si vous lisez l'histoire, vous verrez que c'est comme ça que ça s'est passé. Et Dieu ne choisit pas toujours, n'est-ce pas, de révéler sa volonté. On avance. Et c'est sur place seulement qu'on dit, ah ben oui, ben c'était ça qu'il fallait faire. Et entre-temps, il peut y avoir des incidents de parcours. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Abraham arrive, et là, parce qu'il y avait une famine, donc, à Canaan, il fallait absolument trouver un moyen de subsister, de vivre. Et donc, ils se sont dit, ah, là-bas, de l'autre côté, il y a le Nil avec toutes ces cultures, eh bien, on va aller là-bas pour manger. Et donc, avec armes et bagages, ils sont partis là-bas. Et ils sont entrés en Égypte. Et là, il y avait, n'est-ce pas, cette histoire de femme. Est-ce que c'était la femme le problème ? C'était pas la femme le problème, n'est-ce pas ? C'était l'homme. Manifestement, Abraham était quelqu'un de très débrouillard. C'était quelqu'un, n'est-ce pas, chaque problème a sa solution. Et quoi qu'il arrive, il s'en sortait toujours. Et il s'en sortait bien. Et même s'il fallait un peu forcer les choses pour que ça fonctionne, eh bien, il n'hésitait pas, il le faisait. C'était un entrepreneur, quelqu'un qui se laissait pas dominer par les circonstances, n'est-ce pas ? C'est lui qui était à la barre. Et quand il arrive en Égypte, Abraham comprend vite que la beauté de Sarai, qui signifie Sarai, ma princesse, ça signifie ma princesse, eh bien que cette beauté allait lui causer du tort. Et il risquait d'être tué. Pour que, évidemment, celui qui était là en pouvoir s'approprie sa femme. Et là, bah, ce serait la fin de la promesse. Donc il s'est dit, attends, moi j'ai une promesse énorme, je ne vais pas commencer à risquer ma vie à cause de ma femme qui est belle, tant mieux, mais donc comment est-ce que je vais faire en sorte que la promesse continue ? Si je meurs, la promesse s'arrête. Donc, bah, tu diras, Sarai, tu diras que tu es ma sœur. C'est pas un vrai mensonge, n'est-ce pas, puisque tu es ma demi-sœur. Donc, ils avaient le même père, mais pas la même mère. Abraham et... C'est ça, hein ? Mais pas la même mère. Donc, c'était sa demi-sœur qu'il avait épousée. Et c'était... Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il a dit, ah oui, non, c'est ma sœur, allez-y, prenez. Et donc, évidemment, c'était dans la coutume de l'époque. On comprenait ces choses de cette façon-là. Il n'y avait pas... on va dire, tout un discours à côté sur les conditions de la femme. Ça n'existait pas. Et la femme n'avait pas le rôle, le beau rôle. Et ça existe encore dans certaines sociétés aujourd'hui. Mais on ne peut pas non plus dire que Abraham n'aimait pas sa femme. Mais il y avait des enjeux. Et les enjeux, c'était ceux-là qui primaient. Et donc, Sarai devient l'épouse de Pharaon. Abraham sauve sa vie. Non seulement il sauve sa vie, mais en plus de ça, il obtient beaucoup de biens en échange de sa sœur, de sa femme. Et lorsque Pharaon découvre que finalement... parce qu'il est frappé d'une grande plaie, n'est-ce pas ? C'est Abraham qui faute, et c'est Pharaon qui se prend les conséquences de la faute d'Abraham. Mais c'est normal, parce que Dieu avait dit qu'il le bénirait. Il avait dit qu'il le protégerait. Et malgré l'attitude d'Abraham, Dieu a respecté sa promesse. C'est-à-dire qu'il n'a pas permis... que Pharaon se retourne contre lui pour lui faire du mal. Et donc, Dieu a agi de cette façon-là. Les choses sont rentrées dans l'ordre, Abraham a récupéré son épouse, et en plus de ça, beaucoup de richesses. Et ils sont repartis. Dieu va respecter sa promesse de veiller sur Abraham. Au chapitre 15, Dieu se présente à nouveau à Abraham, et lui réitère la promesse qu'il lui avait faite d'une postérité nombreuse. Et Dieu donne les détails sur l'avenir de la postérité d'Adam, à savoir qu'il serait esclave en Égypte, ensuite qu'il serait libéré pendant 4 siècles, libéré, qu'ils entreraient dans le pays promis ensuite, lorsque le temps du jugement des Amoréens sera venu. N'est-ce pas, Adam ? Les Amoréens, c'était des habitants du pays. Et il ne s'agissait pas juste de les expulser. Il s'agissait pour Dieu d'attendre que la méchanceté des Amoréens arrive à un pic, à un comble. Et c'est à ce moment-là que Dieu choisirait de faire entrer son peuple. Et ça, c'est intéressant à savoir, n'est-ce pas, pour tous les événements qui se passent dans le monde aujourd'hui. C'est que Dieu voit très très bien ce qui se passe. Il n'est pas du tout aveugle. Et les jugements de Dieu viennent. Ça met du temps parfois. Mais Dieu voit là où la méchanceté grimpe, va à son comble, et un jour il agit. Il agit contre ce peuple, il agit contre ses familles, il agit contre ceux qui sont manifestement, détiennent le record de la méchanceté. Dieu agit. Ensuite, plus loin, dans le chapitre 16, Abraham a toujours un problème, n'est-ce pas ? Dieu lui promet une postérité. Mais il n'a pas d'enfant ! Il n'a pas d'enfant ! Et donc, lui, il prend de l'âge. Et donc, avec Agar, donc Sarah, Agar et lui s'arrangent et pour avoir un enfant. Alors ça se faisait à l'époque, hein, quand une femme était stérile, voilà, une des servantes, je pense qu'on choisissait ça, la personne en fonction de qui elle était, de son caractère sans doute, ses qualités, eh bien, elle prenait la place de l'épouse et c'est elle qui allait procréer pour Abraham dans ce cas-là. Donc elle est mise à contribution. Abraham avait 86 ans. Et comme ça, Abraham a pu dire à tout le monde qu'il avait un fils. Parce que vous imaginez bien que lorsque Dieu vous fait à 75 ans une promesse de « Oui, tu auras une postérité, tu auras... » et que ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que vous attendez pour avoir un enfant, quand il a reçu cette promesse, il a dû le raconter à tout le monde. Enfin, Joseph, quand il a eu ses rêves, eh bien, il les a racontés. C'est normal. Si Dieu, demain, vous fait ce genre de révélation, peut-être que vous n'allez pas le garder pour vous. Mais là, ça fait 75 ans, 86 ans, ça fait déjà 11 ans qu'il a reçu la promesse. Et donc, ça fait 11 ans que les gens entendent la même chose. Oui, je vais avoir une postérité, donc je vais avoir un fils. Obligé. Et il ne l'a toujours pas. Et à l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'était une honte. C'était sans doute que vous aviez fait quelque chose au Dieu ou à Dieu. Vous aviez fait quelque chose de mal. Vous avez été puni en réalité. C'est de ça dont il s'agit. Et donc le regard, la pression sociale pour Abraham était énorme. Et même au sein de sa famille. Ah oui, mais Abraham, t'as pas d'enfant. Ça a enlevé son autorité même. En tant que patriarche. Et donc, ils ont un enfant qu'ils appellent Ismaël. Et lorsqu'Ismaël a 13 ans, Dieu se présente à nouveau à Abraham. Et il met en place avec Abraham un certain nombre de choses, donc notamment la circoncision, qui est le signe de l'alliance entre Abraham et Dieu, et donc la postérité à venir. Donc toute la famille se fait circoncire, Abraham lui aussi. C'est là qu'il change de nom, de Abraham il devient Abraham. Et il change de nom de Sarai, qui devient Sarah. Et donc Sarai passe de ma princesse à Sarah, qui signifie reine. Et Abraham qui signifie père illustre, eh bien devient Abraham, père d'une multitude. Le père d'une multitude est sa reine. Et donc à l'âge de 100 ans pour Abraham et à l'âge de 90 ans pour Sarah, Dieu leur donne enfin un fils qu'ils appelleront Isaac. Isaac est le fils promis. Et donc, après quelques péripéties, je ne vais pas rentrer dans les détails, dont le renvoi d'Agar et d'Ismaël, Dieu se présente à nouveau à Abraham. On va au chapitre 22. Et ça, c'est sans doute l'histoire qu'on connaît la mieux concernant Abraham. Et il est dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu teste Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » L'ange de l'Éternel n'est autre que Jésus lui-même, qui, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas d'ange qui peut bénir un homme, en fait. Il n'y a que Dieu qui peut bénir un homme. Dieu, et là, c'est l'ange de l'Éternel qui jure par lui-même, eh bien, c'est évidemment Jésus qui parle à ce moment-là. C'est une histoire, j'imagine, qu'on connaît bien parce qu'on l'a entendue à l'école du dimanche. Pas nécessairement parce qu'on s'est arrêté longtemps dessus pour y réfléchir. Mais on l'a entendu souvent à l'école du dimanche. C'est quelque chose qui revient de façon cyclique. Mais il y a une question qui se pose. Comment est-ce qu'un Dieu aimant peut demander un tel acte à un homme? Comment Abraham a-t-il pu obéir un ordre aussi inhumain? Je pose cette question à dessein parce que c'est typiquement les questions que posent les athées lorsqu'ils pointent ce texte. Mais ils ont raison de la poser. Ils ont raison de la poser et les chrétiens ont tort de ne pas savoir quoi répondre. Et c'est dramatique. Les chrétiens ne savent pas quoi répondre. Alors, je ne vais pas vous donner la réponse, mais j'aimerais juste qu'on réfléchisse un peu à cette question. Et en premier, qu'est-ce qui a de la valeur pour Dieu? Qu'est-ce qui compte pour Dieu? Quand nous pensons à Dieu, quand nous pensons au service de Dieu, quand nous nous disons serviteur de Dieu ou que nous disons travailler pour Dieu, comment est-ce que nous savons que ce que nous faisons, que ce que nous apportons à Dieu a de la valeur pour Dieu? On fait des choses, on sait que ça a de la valeur pour nous, mais comment est-ce que je sais que ça a de la valeur pour Dieu? Peut-être que Dieu s'en fiche complètement de ce que moi je trouve qui a de la valeur. Et c'est pas certain que nous, les humains, ce que nous valorisons, eh bien que cela impressionne Dieu. Il y a toutes sortes de choses, n'est-ce pas, qu'on peut faire pour Dieu. Parfois même, on fait des sacrifices dans sa vie. Et on pense que ça plaît à Dieu. Mais Dieu n'est pas impressionné par nos performances. Ce qui l'impressionne, c'est l'obéissance. Dans 1 Samuel, au chapitre 15 et au verset 22, vous lisez: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. N'est-ce pas? Il y a deux façons de voir le service pour Dieu. Il y a les sacrifices que nous faisons et qui, pensons-nous, plaisent à Dieu. Et il y a l'état de notre cœur. Si notre cœur n'est pas droit, il n'est pas obéissant. Et les sacrifices que nous faisons alors n'ont aucun intérêt pour Dieu. Ça, c'était l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande plus de faire des sacrifices, mais il nous demande d'avoir un cœur droit. L'obéissance reste. Alors nous, les hommes, il y a des choses par lesquelles nous sommes immédiatement et fortement attirés. Nous nous intéressons aux choses qui préoccupent nos pensées au quotidien. C'est évident. Je me lève le matin, je pense à ma journée. Et donc je me focalise là-dessus. Mais on est aussi attiré par ce qui brille. Ce qui est bling-bling. N'est-ce pas? Ce qui fait du bruit. Ce qui nous émoustille. Nous sommes attirés par les choses de la vie, notre confort, nos maladies, nos enfants, nos maisons, nos tristesses, nos voitures, notre compte en banque, l'assurance. Est-ce que je prends une assurance ou pas? Mais en fait, c'est des questions que Dieu ne se pose pas. On est intéressé, accaparé par toutes sortes de choses qui n'intéressent pas Dieu au premier degré. C'est pas que c'est mal de s'occuper des choses de la vie. On doit s'en occuper. On est sur la terre. Mais si on fait passer les choses de la vie avant le service de Dieu, eh bien, nous risquons de nous perdre. Abraham avait besoin d'une postérité. Il était omnibulé par ça. Il était focalisé par ça. Et lorsque Dieu lui a parlé la première fois et qu'il lui a promis la postérité, il a dit « Waouh, épatant, super. Une descendance, c'est exactement ce que je cherchais depuis longtemps. Et Dieu vient et me la donne. Formidable, je suis béni. » Le problème, n'est-ce pas, d'Abraham, c'était sa culture. Ne pas avoir de descendance, j'ai déjà dit, c'était une honte personnelle. Un déshonneur qui se manifestait par une sorte de réprobation sociale. Et Abraham, dans son désir de postérité, ne cherchait pas premièrement à servir Dieu. Il cherchait premièrement à se servir lui-même. C'est-à-dire à apparaître comme quelqu'un de digne, de respectueux, quelqu'un qui a sa place dans la société dans laquelle il vit. Le regard des autres pèse énormément sur nos émotions. La pression sociale et familiale parfois est tellement forte que ça peut nous inciter à prendre des décisions qui sont préjudiciables pour le plan de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, lorsque Sarah et Abraham se sont concertés pour faire en sorte que Agar soit celle qui soit à l'origine de la postérité. Pour Dieu, ce qui est important vraiment, c'est la façon dont l'humanité le perçoit. C'est ça que Dieu, qui intéresse Dieu. Et c'est la raison essentielle de la venue sur Christ sur la terre. Christ est venu pour rétablir l'image de Dieu premièrement sur la terre et premièrement au milieu de son peuple. Et l'image de Dieu passe premièrement par notre spiritualité, c'est-à-dire notre façon spirituelle de servir Dieu. Parce que c'est ça qui se voit. C'est ça que nos voisins voient. C'est ça que le monde voit. La façon dont je travaille, la façon dont j'interagis, la façon dont je réagis lorsque je suis en difficulté, la façon dont je parle lorsqu'il m'arrive un coup dur. C'est ça, les choses que les gens voient. Et c'est pas quand tout va bien, tout le monde est pareil, finalement. Tout le monde est content et a le sourire. Quand tout va mal, est-ce qu'on fait la différence entre le monde et moi ? C'est ça. Et c'est là ce qui intéresse Dieu. C'est que moi, j'ai une autre attitude lorsque les circonstances sont difficiles. Parce que c'est ça qui exprime le caractère de Dieu. La seule chose, en fait, Dieu n'a rien demandé à Abraham. Il lui a juste dit des choses. Il lui a dit ce qui allait lui arriver. Il lui a dit ce qui a commencé à aller se dérouler dans une certaine mesure. Et il n'a rien demandé à Abraham. Il n'a pas demandé de faire un enfant, il n'a pas demandé d'accomplir la promesse. Il lui a juste dit, voilà ce qui va se passer. Et regarde, observe. Et Dieu ne demande pas plus à nous. La seule chose que Dieu demande aux hommes lorsqu'ils se révèlent, c'est de reconnaître qui il est et de le faire connaître par ce qu'ils sont. C'est Dieu qui s'est révélé à Abraham. Abraham a reconnu Dieu, mais il lui a fallu du temps pour faire véritablement connaître Dieu. Parce que pour faire connaître Dieu, il faut avoir reçu quelque chose de Dieu. Quelque chose que l'on partage avec lui. Si je vous posais la question, à chacun individuellement, qu'est-ce que tu as reçu ? Et qu'est-ce que tu partages avec Dieu ? Qu'est-ce qui fait que son image a commencé à se diffuser en toi. De sorte que tu n'es plus tout à fait toi-même, mais que quelque chose en toi montre la vérité de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu et qui te permet de dire cela ? Abraham avait essayé de montrer la fidélité de Dieu à son égard. Peut-être qu'il avait témoigné autour de lui du fait que Dieu lui avait fait une promesse d'un fils. Et c'est quand il a vu que ça mettait du temps à venir, quand il a subi les moqueries de son entourage, alors, comme d'habitude, il s'est débrouillé. Abraham était débrouillard. Il s'est débrouillé et il a fait un fils avec sa servante. Et il l'a montré comme étant la bénédiction de Dieu. Et dans Galates 4:30, vous lisez ce que Paul, l'apôtre Paul, en dit. Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Abraham a fait un fils à l'esclave. Ismaël était le produit attendu d'une relation sexuelle normale entre un homme et une femme. Mais Isaac était le don de Dieu pour un couple incapable de procréer. Vous voyez où est la différence? Isaac était un miracle de Dieu. Isaac était le fils donné à Abraham comme Christ a été donné aux hommes. Dieu a donné un fils à une humanité stérile. Une humanité qui fait des enfants illégitimes avec toutes sortes d'esclaves et qui les exhibe ensuite comme des dieux. Ismaël, en tant que fils d'Abraham et de sa servante Agar, peut être vu comme symbolisant les tentatives de l'homme de réaliser ses propres aspirations et ses désirs sans la pleine dépendance et la confiance en Dieu. Nous, les hommes, on est débrouillards. On va s'en sortir. Ismaël, c'est l'enfant de la raison. C'est l'enfant de l'effort humain pour atteindre des objectifs par ses propres moyens, par sa propre puissance. N'est-ce pas ? Et c'était la condition des Juifs lorsque Jésus est venu. Les Juifs et les pharisiens qui se décrivaient comme étant les fils d'Abraham. Ils étaient religieux, mais leur recherche spirituelle était sans une véritable soumission à la volonté de Dieu. Ils ne représentaient qu'eux-mêmes et leur propre corporation, mais ils ne reflétaient pas l'image de Dieu. Est-ce que nous reflétons l'image de Dieu ou est-ce que nous reflétons juste notre clocher, notre église, notre corporation, notre façon de penser, notre façon d'être et de vivre? Nous ne pouvons rien donner à Dieu, mais nous pouvons rendre à Dieu ce qu'il nous a lui-même confié. Partout dans la Bible, vous lisez « Rendez gloire à Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire « rendre gloire à Dieu » ? Ce n'est pas « donner gloire à Dieu », c'est aussi marqué, mais très souvent c'est dit « rendez gloire à Dieu ». Et ça veut dire que ce que nous avons, beaucoup des choses, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. La vie, l'intelligence, la capacité de réfléchir, de faire des projets, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui nous les a données. C'est sa gloire qui repose sur nous, qui brille sur nous. Eh bien, rendez gloire à Dieu. Les croyants reconnaissent, n'est-ce pas, que Dieu est la source de tout et que toute l'humanité a reçu des bienfaits, des bénédictions matérielles et intellectuelles. Et c'est pourquoi le croyant offre sa vie à Dieu. Nos vies appartiennent à Dieu et il est légitime qu'elles lui soient rendues volontairement. Dieu a demandé à Abraham de lui donner la seule chose qui avait de l'importance à ses yeux, Isaac. Avant d'être le fils d'Abraham, Isaac était le fils désiré par Dieu pour accomplir la promesse d'une descendance nombreuse. Et Dieu avait besoin de savoir, et c'est ça le test, c'est ça l'épreuve. Dieu avait besoin de savoir que Abraham ne s'était pas approprié Isaac. Et Dieu a demandé que Isaac lui soit restitué. Il y a une femme qui a dit, n'est-ce pas, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai à nouveau, je te le rendrai. C'était qui?
Anne.
Qui était la maman de
Samuel.
N'est-ce pas, cette femme avait compris. Elle avait compris que l'enfant que Dieu lui donnerait ne serait pas le sien vraiment. Et c'est pour ça qu'elle avait même anticipé sur ce que Dieu aurait pu lui demander. Elle dit, donne-moi cet enfant et je te le rendrai, je te le donnerai en retour. Eh bien, Dieu voulait s'assurer que Abraham ne s'était pas approprié Isaac définitivement. Parce que ce que Dieu donne, ce que Dieu te donne, ce que Dieu vous a donné, et là je parle de choses spirituelles, plus que de choses matérielles, le Saint-Esprit, les bénédictions spirituelles, toutes ces choses que Dieu nous donne, il veut s'assurer qu'on ne se les ait pas appropriées comme étant quelque chose qui nous appartient à nous. Il veut être sûr que les choses que nous réussissons dans la vie, nous ne disons pas et ne faisons pas croire à tout le monde, c'est nous qui l'avons réussi. Il faut que ce soit évident, que le monde voit que si nous avons réussi, c'est grâce à Dieu. C'est une chose de le dire, c'est une autre chose que de le montrer. C'est ce que les gens doivent voir. Parce qu'en le voyant, il voit Dieu à l'œuvre. Abraham, ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas le garder pour toi comme si ça t'appartenait. Isaac n'est pas de toi. Isaac n'est pas de Sarah. Isaac vient de Dieu. Isaac est fils de Dieu. Donné à Abraham, comme Jésus est fils de Dieu, donné à l'humanité. Spirituellement, les hommes sont stériles en eux-mêmes. Ils ne peuvent rien donner à Dieu si Dieu ne les a pas pourvus d'un don divin auparavant. Et Dieu a poussé Abraham dans ses retranchements, et lorsque il lui a demandé de sacrifier Isaac, Abraham n'avait que deux solutions. C'était refuser ou obéir. N'est-ce pas, Abraham, le débrouillard, a longtemps trouvé des solutions pour régler ses problèmes dans la vie. Mais un jour vient où Dieu vous met à la croisée des chemins. Il vous met dos au mur. Et l'obéissance vient lorsqu'on a compris le dénuement. Lorsqu'on a compris qu'on n'a rien. On n'a rien à donner à quiconque. Rien à donner à Dieu, mais même rien à donner autour de nous. On ne peut rien faire de soi-même. Et Dieu, ce que tu m'as donné ne m'appartient pas. Le souffle de vie, les battements de mon cœur, aucune de ces choses ne m'appartient. Et le rien que je suis, eh bien, je te le donne. Est-ce que nous pouvons dire cela ce matin ? Après une longue saison de débrouillardise, est-ce que Dieu nous a mis le dos au mur pour que nous puissions lui dire le rien que je suis, le rien que j'ai, je te le donne, parce que même ce fils que tu m'as donné n'est pas à moi. Que le Seigneur vous bénisse.